ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, nous sommes avec Christine Rosenberg. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous faites partie du comité 31 du Mouvement de la Paix.
Oui.
Au niveau national et sur Toulouse, situé à la Bourse du Travail. Et je mets le site, mais il est aussi déjà sur la photo 31@mvtp.org. Aujourd'hui, vous venez plus particulièrement nous parler d'un débat qui aura lieu le 16 mai de cette année à 19h à la Bourse du Travail, 19 Place Saint-Sernin.
Oui, donc nous avons invité, plusieurs organisations ont invité Salah Hamouri, qui est un citoyen franco-palestinien. Donc il est français par sa mère et palestinien par son père. Salah Hamouri, qui a été expulsé par le gouvernement israélien de Jérusalem-Est, sa ville natale. Alors, il faut rappeler qu'expulser une personne protégée d'un territoire occupé comme Jérusalem est un crime de guerre, qui, comme le rappelle Amnesty International, porte un nom, c'est une déportation. Donc, voilà, on en est là. Et donc, à son arrivée à Roissy, Salah a été clair, à travers ma personne, c'est un processus de nettoyage ethnique dont il s'agit. En effet, Salah est victime, et ce n'est pas un accident, il s'agit bien de l'expression de la violence politique de l'État d'Israël, qui s'autorise absolument toutes les méthodes, y compris des crimes de guerre, au vu et au su de tous, pour tenter de briser la résistance palestinienne et d'étendre le projet colonial. Donc, Salah viendra le 16 mai à 19h à la Bourse du Travail pour témoigner de sa situation et plus généralement, évidemment, de la situation des Palestiniens.
Et vous militez dans le mouvement de la paix, pour la paix, pour la liberté d'expression et pour la liberté de circulation.
Oui, absolument.
Parce que
pour le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, le mouvement de la paix s'engage sur tous ces terrains.
Il y a des repères fondamentaux qui se réfèrent à la Charte des Nations Unies, aux résolutions de l'Organisation des Nations Unies et à un livre blanc pour la paix. Donc, c'est de ça dont vous allez nous parler maintenant.
Oui, enfin, le Livre blanc pour la paix, c'est un livre qui a été fait avec plusieurs associations sur les questions de la paix et
de la non-violence.
De la non-violence. Et donc, je voudrais rappeler quand même que le Mouvement de la paix est une ONG qui a été créée en 1948 et qui est agréée Association nationale de jeunesse et d'éducation populaire. Donc, par exemple, on peut, à l'invitation de, on peut venir intervenir dans les écoles. C'est ce qu'on a fait en Haute-Garonne plusieurs fois, invité par des enseignants pour venir parler avec les élèves de la paix. Et ils nous posent des questions. Et donc, on introduit souvent le débat par un DVD qui s'appelle « L'oiseau bonheur », qui est l'histoire d'une petite japonaise qui, en fait, a subi les explosions nucléaires d'Hiroshima-Nagasaki et qui est atteinte dans sa chair et donc, plusieurs années après, en fait, meurt à cause de la radioactivité. Et donc, ça, c'est on aime beaucoup faire ça parce que on pense que l'éducation à la non-violence, à la paix, ça doit se faire dès la... C'est comme contre le racisme, l'homophobie, etc. C'est vraiment par l'éducation qu'on peut faire avancer un certain nombre d'idées et de progrès et d'émancipation.
Parce que le comité 31 se retrouve régulièrement déjà pour travailler sur ces bases, ces outils, à la fois théoriques, mais en même temps par une expérience pratique dans votre recherche et dans vos contacts avec les écoles.
Oui, c'est ça. Bon, depuis le Covid, malheureusement, on n'a plus eu la possibilité de le faire. Mais sinon... Et je voudrais dire aussi que chaque année, on a un mensuel qui s'appelle Planète Paix. Et donc, le dernier numéro est consacré à la Nagba, hein, c'est-à-dire l'expulsion des Palestiniens de Palestine.
D'ailleurs, vous avez apporté un livre de Elia Sambar.
Non, c'est vous qui l'avez apporté.
Oui, mais nous travaillons tous les deux. C'est oui, au oui. Seuil en 2013 et ça s'appelle « La Palestine expliquée à tout le monde ». La Nada, c'est la réforme au niveau d'une réflexion plutôt philosophique ou de la religion, mais il y a des Palestiniens qui sont de toute conviction. Et puis la Kasbah, bah, c'est la catastrophe hein, en 1948 oui. avec l'installation de l'État d'Israël. Mais justement, le débat, non seulement en Palestine ou en Israël, c'est de savoir s'il y a deux États qui sont viables ou s'il y a un État binational. Et c'est en cours de discussion.
Ah ben ça, c'est un grand... Parce que quand on voit une carte aujourd'hui de la Palestine, c'est même plus... c'est troué par des colonies, par le mur, par des tas de... Par des routes interdites. Donc, c'est un vrai gruyère, quoi. Et donc, on ne voit pas comment il y ait la possibilité de créer un État... palestinien, et donc d'autant plus que le gouvernement actuel est dirigé, on peut le dire, par des fascistes. D'ailleurs, ils se reconnaissent eux-mêmes comme des fascistes.
Vous voulez parler de la bande de Gaza ou du...
Non, je parle du gouvernement, à l'heure actuelle, israélien.
Oui.
Oui. Non, mais je ne parle pas de la bande de Gaza, là. Je parle du gouvernement israélien.
Vous parlez d'un État palestinien, alors qu'il y a d'un côté la bande de Gaza et d'autre côté la Cisjordanie
oui,
et Jérusalem Est.
Oui.
Donc la notion d'État évoque la notion de frontière, et vous me disiez que, justement, cette question des frontières dans les têtes, entre ceux qui veulent le grand Israël, mais mythique de la Bible, et d'autres qui disent non, nous en tenons aux décisions de l'ONU, avec une reconnaissance d'Israël d'un côté, et une reconnaissance de l'État de la Palestine oui. de l'autre, avec la résolution 242 de 1967 et la résolution 338 de 1973. Mais ce sont des résolutions qui n'ont pas été... appliqué dans les faits.
Oui. Mais si on peut revenir, le problème est que les gouvernements, et notamment le gouvernement français, n'a jamais voulu se déclarer pour la reconnaissance d'un État palestinien. Or, il y avait eu, il y a quelques années, un vœu de l'Assemblée nationale qui, justement, voulait... qu'il y ait une déclaration de la France pour la création d'un État palestinien. Ça ne s'est jamais fait. Et donc, par la suite, il a été dit « Oui, mais les circonstances ne sont pas les bonnes, etc. 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 » Si bien qu'on arrive à une situation aujourd'hui qui fait que... avec ce gouvernement... dont certains se déclarent ouvertement fascistes, hein. Par exemple Smotrich, qui a maintenant un poste sur mesure de gouverneur colonial, et Benzir, la sécurité nationale, incluant les forces de répression contre les Palestiniens et le sort des prisonniers politiques palestiniens. Et donc, il est clair qu'aujourd'hui... pour nous, l'impunité d'Israël est le moteur de tous les crimes. Hein. Et donc, il faut réclamer des sanctions, imposer une protection du peuple palestinien et rappeler que la réalisation de ces droits, les droits du peuple palestinien, passe par le démantèlement du régime d'apartheid que subissent toutes les composantes du peuple palestinien. Et il faut redonner la parole à la jeunesse qui c'est un pays très jeune, la Palestine. Hein, et voilà. Et c'est en même temps, contrairement à ce qu'on pourrait penser comme ça, le peuple palestinien est un peuple très éduqué, qui a un très haut niveau de formation.
Alors,
on y dit compris que, dans la bande de Gaza.
On dit que dans certains manuels scolaires, il n'y a pas forcément, disons, à côté de la fibre patriotique, une éducation à la paix. Mais je voudrais que nous évoquions la lettre qui a été envoyée à Madame la Première Ministre, parce qu'il y a des propos tenus dans l'enceinte du Parlement français qui sont à la limite de la polémique. Alors, vous avez utilisé des mots très durs en parlant des gouvernements fascistes. Moi, je peux dire aussi que j'entends de l'autre côté ceux qui disent qu'il y a des mouvements terroristes et il y a le refus de la reconnaissance de l'État d'Israël. Notre discussion actuellement montre combien l'utilisation des mots est compliquée. Et lorsqu'on va dire toute critique de l'État d'Israël eh bien, entraîne l'antisémitisme, on va dire oui, mais d'un autre côté, il y a des tendances à un mouvement sioniste. Donc on voit comment les relations à la fois religieuses et politiques simplement philosophiques sont imbriquées. Revenons, si vous voulez bien, à Salah, qui est justement accusé pour des choses qui ne sont pas prouvées.
Absolument.
Et qui puisse s'exprimer, c'est la moindre des choses. Et en France, surtout. Hein. Et le tribunal, d'ailleurs, administratif, a, je crois, estimé que c'était une atteinte grave, manifestement illégale, à la liberté d'expression, à la liberté de réunion, on empêche Salah de s'exprimer.
Absolument.
Donc notre réflexion aujourd'hui doit déboucher peut-être sur à la fois une information et puis peut-être de permettre d'apaiser. Alors, vous avez, je crois, une citation très forte de Monsieur Mandela.
Oui.
Qui parle de Bantoustan ou d'apartheid.
Il parle d'apartheid, Nelson Mandela. Je peux vous lire si vous... Mais on
avait prévu une petite plage musicale,
oui,
pour calmer le jeu et vous reviendrez sur cette question comme sur le beau poème de Mahmoud Darwish pour que nous puissions situer cette réflexion. Merci Christophe pour la première page musicale.
J'y crois, avec Benoît Petit.
Et aujourd'hui.
Alors la musique que vous venez d'entendre, c'est Sada Aka, qui est en fait une chanson qui dit qu'il y a un pays. Il y a un pays, le pays c'est la Palestine. Donc, voilà.
Parce que souvent ce pays a été considéré comme inexistant.
Ben voilà. Les sionistes considèrent qu'il n'y a pas de peuple en Palestine. Ils sont arrivés là, qu'il n'y avait pas de peuple.
C'était un pays virtuel, alors que
voilà,
maintenant il est reconnu, et non seulement à l'ONU, mais aussi à l'UNESCO.
Il est reconnu, enfin, à l'UNESCO, oui. À l'ONU...
Oui, de fait, puisqu'il y a eu les résolutions.
De fait, oui.
Il y a 14 États qui reconnaissent la Palestine.
Oui, oui.
Et vous avez donc illustré cela à travers la phrase de Nelson Mandela.
Oui, c'est sur la question de l'apartheid, parce que il y a tout un débat sur considérant l'apartheid. Notamment, il y a eu un rapport important d'Amnesty International qui définit, qui démontre l'état d'apartheid en Israël et qui tout de suite, évidemment, a été taxé d'antisémite, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on critique la politique de l'État d'Israël, on est taxé d'antisémite. Alors, je lis la phrase de Nelson Mandela. Durant ces dernières années, il n'était pas question pour Israël d'un État palestinien, mais de séparation. L'intérêt de la séparation résidait uniquement dans sa capacité à maintenir le caractère juif et de se débarrasser d'une minorité palestinienne qui pouvait un jour devenir majorité, ce qui aurait contraint cet État à devenir un État d'apartheid de jure et non seulement un État d'apartheid de facto. Alors il faut savoir aussi que récemment, j'ai plus les dates en tête, l'État d'Israël a été défini comme un État juif. Et donc la phrase de Nelson Mandela était presque prémonitoire.
Voilà. Avec la question de savoir si c'est une terre sans peuple ou un peuple sans terre, puisque ça a été une formule qui a été souvent évoquée. Et l'histoire de la Palestine contemporaine se souvient que souvent on a dit c'est des gens de la terre sainte.
Oui.
Mais ça suppose une représentation religieuse que beaucoup contestent. Alors à la fois on peut dire oui, c'est le berceau des trois monothéismes, mais en même temps... ces monothéismes, c'est plutôt d'ordre symbolique et d'ordre religieux, alors que peut-être qu'une laïcité, c'est-à-dire une séparation entre le religieux et le politique, serait quelque chose qui est facteur de paix.
Absolument.
Alors que les religions sont sans doute... ça, c'est votre position en tant que... personne personnelle. Je vous avais demandé de vous présenter, de savoir quelle avait été votre famille, et d'où vous venez,
paix. J'en ai parlé avec vous personnellement, mais je ne l'ai pas dit à la radio.
Parce que le point de vue que l'on peut avoir sur le monde influence nos actions pour la paix. Alors, ce n'est pas le lieu ici, mais souvent je demande, ma foi, j'y crois. Vous dites,
Ma foi, elle est en l'être humain. L'être humain est pris dans des systèmes qu'il maîtrise pas toujours, et que je pense que profondément, contrairement à... Bon, il y a des débats là-dessus, que l'être humain n'est pas intrinsèquement pour la violence et pour la guerre. Je pense que le problème... Alors, là aussi, moi, il me semble qu'il y a un concept important, c'est que la guerre, c'est un état, on est en guerre. Mais la paix, c'est une construction. La paix, ça se construit à partir de plusieurs points. Et justement, j'enchaîne sur mon thème préféré, qui est les 8 domaines d'action de la culture de la paix qui ont été définis par l'ONU. Nous, c'est notre Bible, entre guillemets. Alors, il y en a 8, je les cite. Renforcer une culture de la paix par l'éducation, on en a parlé là. Promouvoir un développement durable sur les plans économiques et sociaux. Ça fait que, par exemple, le mouvement de la paix a appelé aux manifestations et à rassemblement du 1er mai hein, pour une paix universelle et durable qui ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. Et il faut savoir que l'Organisation internationale du travail, qui a été créée en 1919, a reçu en 1969 le prix Nobel de la paix. Et voilà.
Si tu veux la paix, prépare la paix et voilà. Non pas et la course aux armements.
Voilà, il n'y a pas de paix sans justice sociale. Troisième point, promouvoir le respect de tous les droits de l'homme. Alors, comme j'ai des amies féministes, dont une qui est engagée à la Marche mondiale des femmes, il faudrait changer les droits de l'homme par les droits de l'être humain. Hein, parce que plus de 50% de l'humanité est constituée de femmes, quand même. Alors, quatrième point, assurer l'égalité entre les femmes et les hommes. Cinquième point, favoriser la participation à la vie démocratique. Ça, c'est fondamental aussi. Développer la compréhension, la tolérance et la solidarité. Soutenir la communication participative et la libre circulation de l'information et des connaissances. Aujourd'hui, on voit que c'est compliqué parce que j'entendais ce matin une émission, par exemple, sur les fake news. Hein, même avec c'était sur France Culture avec des historiens. Et il faut savoir aussi que le problème, par exemple, de l'histoire, il n'y a pas une histoire point. C'est-à-dire que le temps évoluant, il y a des nouvelles données, des nouvelles connaissances qui viennent pas forcément.
Abolir
les connaissances précédentes, mais qui viennent les enrichir et apporter des précisions. Et c'est ça qui est fondamental.
Vous vouliez aussi
évoquer... terminer le 8e point, promouvoir la paix et la sécurité internationale. Et ça, c'est fondamental aussi.
Vous vouliez expliquer votre point de vue par rapport à l'armement et à la loi de programmation militaire.
Oui, voilà.
Ça sera presque notre conclusion.
Voilà, mais... parce que voilà, ce qu'on nous dit par exemple, il y a un déficit, il y a une dette, on n'a pas les moyens de payer les retraites. Et pour ça, le gouvernement a décidé que la retraite, la prolongation. De l'activité jusqu'à 64 ans. Et donc, bon, vous êtes tous au courant de ce qui se passe. Mais le gouvernement ne nous parle pas de la loi de programmation militaire qui va...
Gréver
la prochaine loi de la programmation militaire qui va arriver à la hauteur de 413 milliards d'euros sur 6 ans, c'est-à-dire une augmentation de 40% par rapport à la loi de programmation précédente. Et d'ailleurs, cette loi de programmation inclut de l'ordre de 60 milliards d'euros pour les armes atomiques, en violation du traité de non-prolifération nucléaire signé et ratifié par la France en août 1992.
Pour conclure émission.
Et en contradiction avec le traité d'interdiction des armes nucléaires, entrée en vigueur le 21 janvier 2021. Voilà.
Vous vouliez aussi terminer notre réflexion par une phrase de Mahmoud Darwish.
Oui.
Je voudrais évoquer ce qu'il appelle la fraternité. Quand tu prépares ton petit déjeuner, pense aux autres, n'oublie pas le grain aux colombes. Et quand tu rentres à la maison, pense aux autres, n'oublie pas le peuple des tentes. Vous aviez une autre citation de Mahmoud Darwish.
Oui, Mahmoud Darwish dit « Nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Espoir de libération et d'indépendance. Espoir d'une vie normale où nous ne serons ni héros, ni victimes. Espoir de voir nos enfants aller sans danger à l'école. Espoir pour une femme enceinte de donner naissance à un bébé vivant dans un hôpital et pas à un enfant mort devant un poste de contrôle militaire. Espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans les rues roses plutôt que dans le sang. Espoir que cette terre retrouvera son nom originel, une terre d'amour et de paix, Merci pour porter avec nous le fardeau de cet espoir.
Merci Christine, et nous remercions également Christophe à la technique. À bientôt. Oui.